Les minutes de la fin du monde.
Non, mais c'est bon, il y a des entreprises qui ont des solutions dans les cartons.
De toute façon, je vais te dire, l'humanité s'en est toujours sortie.
On est hyper moteur sur le développement durable.
Les minutes de la fin du monde. Chers auditeurs de Radio Campus, quel plaisir de vous retrouver en ce mois de juillet 2025, le mois qui va changer nos vies. Juillet, c'est les enfants en vacances, les étudiants en stage ou en job d'été. Juillet, c'est le Tour de France, la plage, les glaces, les pastèques et les apéros sous la tonnelle, là, quand on a la chance d'avoir une tonnelle, évidemment. Et puis juillet, c'est aussi de plus en plus la canicule. La deuxième vague de chaleur, qui n'est techniquement pas une canicule, mais bon, il fait chaud quand même. Et puis re-la canicule par derrière. Et déjà, nous en France, dans le Nord, on a l'air tarte avec notre canicule et notre sécheresse. Mais c'est bon pour le commerce. On va nous vendre des ventilateurs et des climatiseurs, surtout des climatiseurs, en nous expliquant qu'ils nous ont une bonne note environnementale, un beau A. Ben tiens. Et puis, on va nous vendre des barbecues pour faire griller de la viande sur du charbon. C'est noté A en environnement aussi, à tous les coups, probablement. Hein. D'ailleurs, honnêtement, qui a eu cette idée de faire un feu pour préparer de la nourriture précisément quand tout le monde a chaud? Probablement la même personne qui fait des bûches glacées à Noël. Mais l'enjeu est ailleurs. Non seulement il va falloir que nous nous convainquions qu'il y a d'autres façons de vivre en été, pour moins souffrir de la chaleur, d'autres façons de se protéger, d'autres façons de vivre et profiter de l'extérieur que de climatiser à tout va. Mais surtout, il va falloir convaincre le reste du monde et sans trop jouer aux donneurs de leçons aussi. Parce que le reste du monde n'a pas l'air passionné par l'écologie, par l'environnement, par la crise climatique. Non, il semblerait plutôt qu'une bonne partie du reste du monde ait envie de se vautrer dans le consumérisme le plus veule, celui-là même qui nous mène collectivement à une crise écologique majeure, alors que nous n'étions qu'une fraction occidentale de la population mondiale à en avoir usé et clairement abusé. Je vais même pas dire profiter, parce que je sais que ce consumérisme a aussi un coût pour nous, un coût que nous payons assis au chaud sur un coussin, un coût que nous faisons largement payer au reste du monde, mais un coût quand même. Voilà, on est en 2025, 28 ans après le lancement à l'ONU du concept de développement durable, et nous allons encore, comme pratiquement tous les ans, hors Covid et crise financière, battre le record du monde de ressources fossiles extraites, traitées, vendues et brûlées dans le monde. La faute à la Chine qui produit tout ce qu'elle peut, nous qui achetons. La faute à l'Inde qui se développe et s'occidentalise. Elle bat des records de pétrole et de charbon, l'Inde, dites. Notamment parce que sa classe moyenne est en train d'atteindre massivement un degré de consumérisme avancé. Sa classe moyenne, elle consomme, elle fait du tourisme international, elle prend l'avion. Et surtout, elle climatise le pays, mais vraiment avec des climatiseurs qui tournent à l'électricité. Et l'électricité en Inde, elle n'est pas verte. Elle n'est pas du tout verte. Mais au final, la faute à nous. Nous qui avons cédé aux sirènes du consumérisme, nous qui nous sommes laissés américaniser. Une bagnole, un avion, vroom vroom, laissez-moi rouler, c'est ma liberté. Je suis libre d'aller en voiture au centre commercial. Si jamais vous aviez des doutes sur l'imaginaire collectif qui nous habite et la conquête par le mode de vie américain, je vous invite à vous interroger sur le film qui vient de sortir. Ça s'appelle F1. C'est l'histoire d'une rivalité viriliste au possible entre un jeune et un vieux pilote de Formule 1. Ben tiens, pour moi, il est difficile de solliciter un imaginaire plus 20e siècle que ça. Comment allons-nous nous en sortir si la culture qui atteint le plus largement le public, c'est deux beaux gosses qui font vroom vroom pour montrer qui est le plus fort ? Et si ça suffisait pas, l'affiche du film rappelle que le film F1 est du même réalisateur que Top Gun Maverick, l'histoire d'un pilote de chasse qui fait vroom vroom avec son avion de chasse et ses grosses bombes. Ah oui, c'est quand même la question. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous voyez Tom Cruise dans le soleil couchant, que son but reste de lâcher des bombes sur des gens quelque part sur la planète ? Parce qu'un avion de chasse, ça sert pas juste à faire vroom vroom, ça sert à tuer des gens. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais il est en gros midi 12.
Bah, non, je ne crois pas.
Et c'est donc l'heure du journal de midi 12.
Trop bien.
Allez, on commence par les titres. Alors, les enfants, le titre principal, vous vous en doutez, c'est quand même une grosse actu.
C'est quoi
Non, ce n'est pas le canal Seine-Nord. Non, ce n'est pas la reprise des travaux de la 69.
C'est la loi du plomb.
Non, ce n'est pas non plus la loi du plomb. Ah. Ce n'est pas le jour du dépassement
qui arrive
dans les jours qui viennent. La vraie grosse actu entre la mi-juin et la mi-juillet,
les vacances.
C'est que nous avons reçu notre premier courriel d'un auditeur.
Ah oui,
c'est vrai.
Alors, où que tu sois, Antoine, toi qui nous écoutes habituellement en balado-diffusion depuis le site internet de Radio Campus Lille, tu peux aussi nous écouter sur 106.6 FM, mais t'es pas dans la région, ou sur le DAB+. Cher Antoine, merci.
Oui.
Sinon, merci.
J'ai encore reçu un courriel pour un séminaire génial.
D'accord.
Alors, dans le cadre de l'animation du projet Décarbochim, qui vise, vous n'allez pas me croire, à décarboner l'industrie de la
chimie,
ouais, voilà. J'ai été invité à suivre en ligne un super webinaire intitulé « Comment les entreprises peuvent-elles relever les défis du changement climatique ?» pour l'interrogation. Alors j'avoue, je me pose la question, mais pas dans la même tonalité qu'eux. Hein. Eux, c'était pas tellement une question, c'était plutôt une affirmation. On va vous expliquer comment les entreprises peuvent relever les défis du changement climatique. Et pour la forme, on va le mettre sous forme de question. Alors que moi, je me pose plutôt la question en mode mais comment ? Mais comment les entreprises peuvent-elles relever le défi du changement climatique ? Pour être juste, il faut aussi préciser qu'il s'agit d'un webinaire de type regard croisé, entre guillemets. Alors, j'ai découvert ce que c'était. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il y ait une légère divergence de point de vue entre les deux intervenants. Je ne les connais pas, ni l'un ni l'autre, mais leurs présentations sont intéressantes. Vous êtes prêts ?
Oui, on écoute.
Oui.
Alors l'une, Cécile Charasson, est consultante en stratégie de transformation et enseignante à Sciences Po Bordeaux. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que fait une consultante en stratégie de transformation. Mais qui sait, c'est peut-être un code pour dire gauchiste qui ponctionne de l'argent aux grandes entreprises.
Ce serait vachement bien.
L'autre s'appelle Christophe Terrien, et je ne vous mens pas, pour parler de relever les défis du changement climatique, ils sont allés prendre un, je cite, « expert performance environnementale et enjeux climat » chez…
Total.
Total.
Ah, bien tenté. Bien tenté. Chez Ariane Group.
Oh oui. Ça va.
Et oui.
C'est sympa de s'appeler Terrien. Terrien.
Ouais,
j'aime beaucoup.
Qu'est-ce qu'on va faire pour revenir sous un plafond écologique viable pour l'humanité ? Envoyer des fusées dans l'espace, c'est évident, non ?
Bah oui.
Parce que la technologie va nous sauver. Pas besoin de changer, oui. On va trouver une solution. Mais oui, parez-vous, arrêtez de croire qu'on va changer le système de l'intérieur en faisant de la RSE au sein de l'entreprise. RSE, c'est responsabilité sociétale. C'est social ou sociétale de l'entreprise ?
C'est sociétale des entreprises.
J'aurais dit sociétale.
Oui. Ouais, c'est ce qui me semble.
Je vérifie. Je fast-check.
Bref, arrêtez de croire que vous allez faire muter votre entreprise avec un schéma directeur de vision stratégique monitoré par des KPI. Ouf, c'est bon, on a fait un bilan carbone.
Alexandre, ouais. C'est des KPI.
Des KPI, des Key Productive Indexes.
Indicator, Alexandre.
Indicators, okay.
Oh là là, mais tu es has-been, Alexandre.
Je confirme, ouais. C'est sociétal.
C'est sociétal.
Des entreprises, okay. Et non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent entreprise et environnement. Le E, c'est pas environnement, c'est
ah oui,
entreprise.
Non. Mm. Ah ouais. Oh là là, quelle surprise, notre activité d'import-export de merde à 3 balles qui a traversé 3 fois la planète est polluante. Grâce au bilan carbone, maintenant, on le sait. Et si on faisait un repas sans viande par semaine pour se donner bonne conscience ? Bon, allez. Et Ariane Group, franchement, hein ? Et si on lançait une fusée dans l'espace pour fêter ça ? Non, mais c'est pour avoir des datas. On va pas dire des données, c'est pas assez moderne, c'est has-been aussi. Ça va alimenter des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de prévoir le changement climatique, parce que franchement, qui aurait pu prévoir ? Et au passage, on va...
Je sais pas.
T'as une idée ? Et au passage, on va tartiner le ciel de satellites divers et variés qui, oh quelle surprise, serviront les intérêts des milliardaires et des armées. Pardon, des défenses, excusez-moi.
C'est pas des satellites pour la météo ?
Ouais, ouais. Pour reprendre le titre d'un des albums de la série BD Les Vieux Fourneaux, qu'on vous recommande, chaud comme le climat.
Chaud comme le climat, exactement.
Mais il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité. J'ai une actu là-dessus. Je vais me contenter de vous lire un communiqué de presse du collectif des faucheurs volontaires, ça date du 26 juin, si vous avez raté ça, c'est intéressant.
Des faucheurs volontaires ?
Ouais.
Okay.
Le FASTAC, pesticide interdit depuis fin 2020, toujours produit par BASF près de Lyon. Suite à leur inspection citoyenne.
Il est produit pour qui ?
Ah bah, non, on arrive. Suite à leur inspection citoyenne réalisée ce lundi 23 juin par les faucheuses et faucheurs volontaires sur le site agrochimique de BASF à Genève, près de Lyon, ils déclarent avoir découvert le 23 juin 2025 dans les locaux de BASF un stock du pesticide FASTAC interdit en France, ainsi que sa substance active, l'alpha-cypermétrine, interdite dans toute l'Union européenne. Il rappelle que lors d'une inspection précédente en mars 2022, ils avaient découvert au sein de cette usine un stock de Regen-TS, un insecticide tueur d'abeilles à base de fipronil et interdit en France depuis plus de 20 ans.
Ouais, mais ça ne surprend pas, je pense pas qu'ils trichent tous, non ? Vous pensez pas ?
Alexandre, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour l'Europe, c'est pas grave.
Ouais, j'ai l'impression. Ouais, l'Amérique du Sud, je miserais. Mais...
Ah, Amérique du Sud, ah oui.
Le fipronil est par ailleurs toujours interdit, toujours produit aujourd'hui par BASF sur son site de Saint-Aubin-les-Elbeufs, une usine très contaminatrice au niveau des PFAS. Il s'indigne du non-respect de la loi Egalim qui, depuis le 23 mars 2022, interdit en France la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement. C'est une citation du texte de loi, ça. Donc BASF est hors la loi. Ils accusent BASF de provoquer en toute conscience homicide et écocide. Ils accusent l'État français de complicité avec les firmes agrochimiques et son inaction pour faire appliquer la loi. Des milliers de tonnes de pesticides interdits, dont 60% sous forme de substances actives, continuent à être exportés vers d'autres continents, notamment au Brésil, de loin le principal importateur de ces produits.
Donc c'est l'Amérique du Sud et pas l'Afrique. Oh, je me suis trompé.
Ainsi, depuis 3 ans, les autorités françaises bafouent la loi et les géants de l'agrochimie, dont BASF, continuent de s'enrichir en exportant leurs substances interdites « made in France » avec tous leurs dommages humains et environnementaux.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on rachète les productions du Brésil derrière. Ouais.
Oh. Non, mais alors, du coup, t'as appris tout ça dans le colloque ?
Non, non, pas du tout. Non, non, rien à voir avec le colloque. C'est complètement autre chose. Ils exigent que l'État français prenne des mesures strictes pour empêcher la production et l'exportation de ces substances hautement toxiques et interdites et qui sèment la désolation dans les pays du Sud. Et ils s'opposent au traité de libre-échange du Mercosur qui risque, en cas de signature, de favoriser encore plus l'exportation de ces pesticides toxiques ainsi que l'importation en France des denrées alimentaires contaminées par ces mêmes produits chimiques. Tout à fait ce que tu disais.
Donc c'est un cercle vertueux.
Ouais. Je pensais que tu allais dire vicieux, parce que ça
oui, j'ai failli faire un lapsus, mais j'ai échoué.
Ça aurait été beau.
Je voudrais mettre ça en perspective de ce paragraphe que j'ai lu dans l'article scientifique de mise à jour des limites planétaires de 2023. Là, on parle d'un article scientifique validé par les pairs. C'est pas n'importe quoi. Cité à d'innombrables reprises, validé par la communauté scientifique. La première autrice s'appelle Catherine Richardson de l'Université de Copenhague, si vous voulez le retrouver. Je traduis directement en français. Personne et al, personne c'est un Suédois, je pense, rapporte que parmi les produits chimiques enregistrés sous la réglementation européenne REACH, qui signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques, environ 80% de ces produits chimiques sont utilisés depuis plus de 10 ans sans avoir encore fait l'objet d'une étude de sécurité.
Ah, c'est que c'est pas dangereux s'il n'y a pas d'études.
C'est qu'on n'a pas encore fait les études.
Depuis plus de 10 ans. 80% de ces produits chimiques sont utilisés depuis plus de 10 ans sans avoir encore fait l'objet d'une étude de sécurité. Nous avons la réglementation la plus stricte du monde, mais elle n'est pas respectée. Voilà notre beau monde capitaliste, écocidaire, raciste, classiste et tout liste possible. On produit des produits chimiques, on n'évalue pas leur toxicité avant de les vendre, et la minorité qu'on a évaluée, même s'ils sont toxiques et interdits, on les produit quand même pour les vendre un peu plus loin. C'est en Amérique du Sud, évidemment, pour les cultures extensives qui alimentent le bétail. Tiens, c'est quoi ce Mercosur, d'ailleurs? On ne serait pas en train de faire un accord commercial pour favoriser les échanges commerciaux avec l'Amérique du Sud?
Si.
C'est quand même bien fait.
C'est bien.
Allez, dernier sujet de ce journal.
Ah, vas-y, on t'écoute. On est au mois de juillet.
Vous avez raison, tout à l'heure, vous l'avez dit. Il faut qu'on en parle, parce que c'est pas joli. C'est franchement immonde. Non, c'est la loi du plomb.
Oui.
Ah, la loi du plomb, c'est beau.
Attention, tu me voles pas ma chronique, hein.
C'est complémentaire, Amina. C'est complémentaire.
Voilà, c'est complémentaire. Je pense qu'on peut y aller lourdement.
Ouais, je pense qu'on peut y aller.
Donc, pour vous dire, je vais même pas me fendre d'un jeu de mots sur du plomb.
Oh, c'est dommage.
C'est vrai que c'est bien trouvé quand même le nom de la personne.
Donc la loi du plomb est passée, c'est fait. Il lui manque plus que l'approbation du Conseil constitutionnel à l'heure où j'ai écrit. Et il y a quoi dans la loi du plomb? Trois grands morceaux. Et là, honnêtement, c'est le mixed grill de l'agriculture industrielle. C'est une assiette pavée de rumsteak, magret de canard et filet mignon avec les marques noires du passage au grill.
Oh.
Pour vous dire, la FNSEA a salué le passage du texte.
Oui.
Alors, donc c'est que c'est un bon texte, Alexandre.
Non.
Et la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, et je ne m'étouffe pas en le disant, a estimé que ce n'était pas un recul environnemental.
Si elle le dit, c'est que c'est vrai, Alexandre.
Je ne sais pas, ils ont fait des études, ces gens-là, non?
On ne peut pas dire que c'est un recul environnemental.
Ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché.
Allez, trois morceaux, je disais. Réintroduction sous condition, mais bon, on commence à connaître les sous-conditions, de plusieurs insecticides précédemment interdits, dont l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, tueur d'abeilles et probablement aussi quelque part tueur paysan et paysanne. La condition, c'est, je cite, « en cas d'alternatives insuffisantes ». Autant dire que ça va sauter, hein, ils vont faire ce qu'ils veulent.
De toute façon.
Pour votre information, auditeurs, auditrices de Radio Campus, on nous dit sur la chaîne parlementaire, où j'ai pris l'info, que cela devrait concerner les producteurs de noisettes, de betteraves et de kiwis.
Ah oui, parce qu'on a une production de kiwis en France.
Bah oui, on a une production de kiwis en France. Ouais, je suis passé devant un champ de kiwis il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours là.
Oui, d'accord.
Bon, betteraves, c'est nous, c'est ici, c'est les Hauts-de-France, c'est la production de
sucre. C'est pourri, hein. C'est pourri.
Voilà,
c'est...
on va s'en manger. Noisettes et kiwis, ça peut venir de loin. Inutile de boycotter les produits français, l'acétamipride n'est pas interdite ailleurs en Europe. C'était qu'en France.
Mmh.
Et dans le reste du monde, ça me surprendrait. Manger bio, c'est le mieux que vous puissiez faire. Deuxièmement, et c'est quand même énorme, les stockages d'eau, c'est-à-dire les bassines et les méga-bassines, bénéficieront, je cite, d'une présomption d'intérêt général majeur.
Mmh. Ah oui, donc à partir du moment où tu veux en faire une, même si ce n'est pas une bonne idée, c'est une bonne idée.
C'est ça.
C'est génial.
C'est ça.
Trop fort.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont désormais le droit de faire des avions en papier avec le code de l'environnement. Plus de possibilité de s'opposer légalement à un projet de bassine parce qu'il y a une espèce menacée qui vit là. Tant pis pour sa tronche à l'espèce menacée. La bassine, c'est plus important. Et troisièmement, histoire de bien couvrir tous les dégâts de l'agro-industrie, la loi prévoit de relever les seuils à partir desquels les élevages de porcs et de volailles sont soumis à des évaluations environnementales. Tout cela en vertu du principe de précaution. En vertu du principe de pas de mesure, pas de preuve. Ni une ni connue, je t'embrouille. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que, alors je n'ai pas les chiffres du nombre de têtes dans les élevages, mais je sais pas, je dis au pif, jusque-là, il y avait une limite à 1000 poules dans un élevage.
Oui, là, ça va
à partir de 1000 poules, t'avais besoin de, tu devais faire des évaluations environnementales, et maintenant, ça va être remonté, donc tu peux faire passer des plus gros élevages
ça
sans
va
avoir
être,
de contrôle.
Ça va être le Texas. Gros, ça va être le Texas en France.
En gros, s'aligner sur l'Europe, c'est ça ? Si j'ai bien tout écouté, tout compris des échanges ces derniers mois.
Ouais, c'est possible. Ouais.
En gros, il y a un retour en arrière. Sur ça. Au lieu que les autres s'alignent sur nous, nous, on s'aligne sur eux.
Non, Arnaud, il n'y a pas de recul environnemental.
Ah, pardon, excuse-moi, je me suis trompé.
Ceci marque la fin du journal de Midi 12, un journal bien chargé en émotions.
On s'écoute c'est en... positif.
Petit, ouais, c'est... oui, bah heureusement que
tu as. Imagine Antoine qui a écouté. Encore une fois, le pauvre.
On s'écoute un petit Head Six pour se mettre la tête dans le bon sens. Ça s'appelle Apocalypse.
Oh, magnifique.
Merci Alexandre.
Avis à la population. De 1648 à 1653, pendant la Fronde, une myriade de poèmes courts et agressifs a bourgeonné pour moquer ou insulter le cardinal Mazarin. Plutôt brève et en vers, mais en réalité de forme libre, la Mazarinade est une attaque directe tant aux mœurs du cardinal qu'à sa politique, et souvent à son enrichissement personnel. Elle attaque, mais elle le fait joyeusement, parfois, souvent, avec grossièreté. La Macronade, je vous le propose, est à écrire et déclamer comme la Mazarinade, mais elle porte sur notre bon président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que sur tous ses alliés. Je vous invite donc à écrire, à déclamer, une, plusieurs Macronades, et à me les envoyer pour diffusion dans les minutes de la fin du monde, mais aussi pour archivage, et pourquoi pas, qui sait, on pourrait publier un truc, ce serait hyper rigolo. Je vous rappelle l'adresse mail de l'émission mfm_campus_lille@proton.me. C'est un concours dans le sens où on participe ensemble, mais pas dans le sens où nous serions en concurrence. Il n'y a rien à gagner, à part à se faire plaisir et contribuer à démystifier ces pompeux cornichons. Toutes les thématiques sont bonnes, il y a tant à dire sur l'action et la communication gouvernementale. Et en supplément, pour vous défouler, je vous propose d'étendre le concept de la mazarinade et de la macronade à la marinade pour vilipender l'extrême droite. Exemple. Monsieur le Président risque de devenir un sans-dents. Quand il y aura la révolution, il faudra un dentier à Macron. Monsieur Emmanuel vraiment nous tyrannise. Il a un manuel pour sombrer dans la crise. Parler d'écologie avec ce président, c'est brûler des bougies pour chauffer les sans-dents. Mais qui est ce boulet qui dresse un cordon bleu poulet ? Qui insulte les citoyens, citoyennes, des classes ouvrières et moyennes ? Qui prétend protéger et servir, noble ambition, pour mieux flashballer et sévir ? C'est le président Macron. Le président Macron n'enrichit que les riches. Il veut capter les fonds, laisser le reste en friche. Pour bien ruisseler, on peut dire que ça ruisselle. À la bourse, au MEDEF, on se remplit l'escarcelle. À se comporter en Jupiter, ses pieds ne touchent plus terre. Même propre, souriant et élégant, un brigand reste un brigand.
On se retrouve dans les minutes de la fin du monde. Radio Campus Lille, 106.6 FM, le DAB+, Internet, campuslille.com. La rediffusion pendant 8 semaines de nos épisodes. Et j'allais dire limite sur demande à Amina sur notre adresse mail, qui est, je le rappelle, mfm_campus_lille@proton.me. Alors,
c'est
Amina.
L'adresse mail, elle est magnifique.
Elle est magnifique.
Et en plus, on sait qu'elle marche maintenant.
On sait qu'elle marche et je pense que c'est depuis qu'on a bien éplé l'adresse sur la dernière chronique.
C'est grâce à moi.
Non, rigolez pas, on s'est gouré. On s'est gouré, le mail est quand même arrivé.
Oh, il est trop fort.
Enfin, bon, c'est bon. À moi, non ?
Eh oui, c'est à toi. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que
bon,
t'as
bah, les copains, comment ça va ? Alors, vous vous sentez bien ? C'est bientôt ou déjà les vacances pour certains ? Vous allez probablement tous aller à la campagne pour profiter de ce temps de répit. Vous allez vouloir faire du vélo, reprendre une activité physique, la course, la marche ou tout simplement aller vous balader et vous prendre dans les poumons en percolation directe tous les pesticides qui ont été arrosés sur les champs que vous allez longer. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça des vacances pour vos organes. On a déjà poussé un cri de honte suite à la reconsidération de l'utilisation des pesticides. Mais aujourd'hui, l'heure est vraiment grave. La loi du plomb, on en a parlé un petit peu avant, c'est quand même un comble, le nom du sénateur qui a proposé ça. Duplomb, Laurent Duplomb, je rappelle quand même. La loi du plomb donc condamne les générations futures à une santé incertaine et une alimentation empoisonnée. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le cri des scientifiques n'a pas été entendu. On régresse carrément. Dès les années 70, oui, encore cette décennie-là, les appels au secours ont été multiples. Et d'ailleurs, des mesures ont été prises dues à ces appels-là. Mais non, il faut revenir en arrière au nom de la souveraineté alimentaire, ou autrement dit, à la langue de bois politique. Donc le disque est rayé, vous me direz, je me répète, mais oui, peut-être qu'on est en boucle, comme nos politiciens qui semblent avoir perdu la mémoire. Donc pour cette chronique, ça sera encore une chanson déprimante. Je pense que tout le monde connaît la chanson dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est juste que pour la majorité d'entre nous, cette chanson est synonyme d'amour et de tendresse, vu la personne qui la chante. Alors que pas du tout. C'est une chanson de 1971, écrite et chantée par un jazzman très connu. C'est une chanson dansante, vous pourrez être tenté de danser le slow dessus. C'est une des premières chansons écologistes. D'ailleurs, le mot écologie en anglais, E-C-O-L-O-G-Y, apparaît la première fois dans un titre de chanson dans la sphère musicale. Elle parle de polluants qui sont envoyés par les vents dans les airs. Elle parle de toutes les huiles et les particules qui partent dans l'océan. Elle parle de l'extinction de la biodiversité, donc les oiseaux et les animaux qui meurent à cause des déchets radioactifs enfouis. Des paroles très courtes mais percutantes. Je doute que vous puissiez danser dessus à nouveau. Mais bon, pour ne pas faire ma rabat-joie, je finis quand même avec une note d'humour, car en baladant sur les internets, comme on dit, pour trouver les infos sur le dit morceau, je tombe sur un site de radio qui s'appelle Call Me Fred, appelle-moi Fred en anglais, tout collé. C'est une web radio créée par un particulier lors du Covid. Le créateur écrit des histoires de chansons et a même une chronique sur, tenez-vous bien, perdre du poids en dormant, la puissance combinée de la musique et du sommeil.
Oh, faut qu'on écoute tout ça.
Je vous assure que c'est pas une blague. Mais ce qui m'a mis sur la puce à l'oreille, c'est qu'il dit que la chanson est sortie en 1989, alors que c'est plutôt en 1971, si vous avez écouté ce que j'ai dit, et que l'artiste est décédé en 84. Donc je me dis, c'est louche. Donc je vais voir, et je lis en fait l'histoire de la chanson dont je vais vous parler tout à l'heure, enfin, donc, je vais vous dire ce que c'est tout à l'heure, et je vous lis ce que j'ai trouvé sur ce site. La chanson parle du protagoniste qui regarde les bateaux aller et venir dans le port, se demandant s'ils vont rester ensemble ou se séparer, ce qui reflète ses propres sentiments sur sa relation avec sa partenaire. C'est carrément linéaire. Il évoque ensuite la venue de Jésus et demande la miséricorde pour lui-même et pour la mort tragique de Marvin Gaye. Enfin, il exprime sa soif de quelque chose et demande à sa mère de l'aider. Dans l'ensemble, la chanson montre le protagoniste aux prises avec ses émotions en quête de salut.
J'ai rien compris, c'est ce qui est dans la chanson, ça ?
Alors, par rapport à ce que j'ai dit avant, ben non, je sais
Ouais.
pas. J'ai pas su dire si c'était une blague ou pas. Il dit que c'est sujet à interprétation, mais bon, je pense que si vous avez un peu compris ce que j'ai dit avant et que vous avez retenu la date et ce que j'ai donné comme détail, donc vous avez deviné le morceau?
Non.
Non, Alexandre?
Non, je n'ai pas.
Merci, merci, Mi de Écologie de Marvin Gaye.
Oui.
Et ça n'a rien à voir avec le texte qui est décrit sur le site Atalac. Et je trouve donc l'explication de la radio CMF à tomber par terre. Au-delà du fait qu'il faut toujours être vigilant sur ce qu'on lit donc sur le net, des fois, ça vaut quand même le détour. Donc voilà de quoi vous mettre le sourire pendant votre prochain slow sur cette chanson.
Merci, Amina.
Merci.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?
Et dites les copains, ça sent la fin de l'émission là.
Ah bon, déjà?
Ben oui, ça passe vite, hein. On a tellement de
Ah oui.
choses à se raconter et dans un cadre tellement merveilleux.
Et positif en plus.
Et positif.
Et positive, c'est des
Et
choses.
ça tombe bien parce que
Oui.
c'est l'heure de la chronique presque positive d'Arnaud.
Presque positive, Alexandre. Exactement. Et en plus, on est en juillet et j'ai de très grandes nouvelles. On a déjà un petit peu parlé. C'est bientôt les vacances, en tout cas bah, pour moi et pour certains auditeurs, je suppose. Pour Amina aussi. Et toi, Alexandre, je crois que tu es déjà en vacances. Tu as beaucoup de chance. Et la deuxième nouvelle, on en a parlé tout à l'heure, on a reçu un courriel d'un auditeur.
Et ouais.
C'est incroyable. Alexandre, t'en as parlé. Alors, merci Antoine pour ton email qui nous a bien fait plaisir. Et oui, on a au moins une personne qui écoute l'émission et qui a réussi à envoyer un email à l'adresse qu'Alexandre nous a rappelé tout à l'heure. On attend maintenant de voir si c'était un coup de bol ou pas. Peut-être qu'on aura un nouveau message ou pas. On verra. Bon, je continue ma chronique, j'en suis où ? Oui, le mois dernier, Amina m'a demandé de faire un retour sur les inventions. Vous vous rappelez toutes les inventions que je raconte depuis 2 ans, là, ouais. Des trucs incroyables que m'ont lancé ces 2 dernières années. Mais bon, pour dire, je n'ai pas vraiment eu envie de le faire parce que c'est bientôt les vacances. Avant les vacances, il y a plein de travail. Donc, je n'ai pas eu le temps de le faire. Et on est en juillet, je n'ai pas envie de le faire. Et puis, on fera ça plus tard. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a en juillet, Alexandre et Amina ?
Tour de France.
Qu'est-ce qu'il y a en juillet ? Non. Oh là là, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Et oui, il y a le Tour de France, Alexandre. Bon, j'entends déjà Antoine et les autres auditeurs de Radio Campus dire « Oh non, il ne va quand même pas s'attaquer au Tour de France 2025, c'est du sport, c'est beau, ça existe depuis 1903, cette année on est en milieu de la 112e édition. » Alors, rassurez-vous, ou pas, j'aime le vélo. Je pratiquais le vélo en club quand j'étais jeune et aujourd'hui je bosse dans le vélo, donc je vais avoir un peu de mal de dire du mal du vélo. Mais on est dans la chronique presque positive des minutes de la fin du monde. Donc, challenge, comme on dit, je vais essayer. Amina, Alexandre, vous êtes en piste. Je vous emmène pour une étape quelque peu intéressante.
Une piste de vélodrome ?
Alexandre ?
Merci à moi.
Pas de commentaires ?
Qu'est-ce qu'il va nous faire ?
Je ne sais pas. Bon, je me lance, allez.
Bon, vas-y, lance-toi, Amina, lance-toi.
Aéroport de Léquin, samedi 5 juillet. Grand départ du Tour de France 2025. Alexandre monte dans un hélicoptère.
Aéroport de Léquin, samedi 5 juillet, pour la même raison. Arnaud monte dans un avion. L'hélicoptère, je sais, on les voit à la télé, mais pourquoi l'avion ?
Lille, même jour, même événement, et pour des raisons de mal de mer, de mal de l'air et de transport, Amina reste à terre dans un camion bien garé de France Télévisions. Alors, Amina, Alexandre, vous êtes bien ? Vous m'entendez bien dans les casques ?
Confort, les sièges sont super, mais on aurait aussi pu rester à la maison, non ?
J'ai un peu l'impression que mon impact environnemental va pas être top, là. Je vote pour le canapé.
Le Tour de France, Amina, Alexandre, c'est le 3e événement sportif le plus regardé au monde. 21 étapes, environ 3500 km. Tu peux le regarder sur le bord de la route. Bon, il faut te concentrer parce que sur le plat, les coureurs peuvent atteindre 50 km/h.
Même 60. Hein.
Ouais, même 60 dans la descente. Mais sur le... Ouais, même plus. Ouais,
en 70, fin d'étape, ils sont à 60 quasi.
Ouais, ouais, parce qu'ils sont en forme en fin d'étape. C'est que le début. Ouais. C'est du spectacle. 23 équipes cette année, 184 coureurs, 51 550 mètres de dénivelé positif sur cette année.
Ouais, je préfère mon canapé. Et je comprends toujours pas pourquoi tu es dans un avion, Arnaud.
C'est pour les images.
Pourquoi les images ?
Ben bien, pour les 190 pays qui retransmettent le tour, puissent avoir des images sans coupure.
Attends, je comprends pas. Sur le tour, il y a des motos.
Oui, non, c'est à moi, mais là. Oui, il y en a 5 pour les images et 2 pour le son.
Pour le son de quoi ?
Ben, il y a aussi les 3 à 5 hélicos par étape, dont 2 avec des caméras.
Et le 1 ou les 3 autres, ils sont là pourquoi ? Et surtout, pourquoi un avion ?
Pas un, Alexandre, mais 3 avions.
Il y a aussi les satellites et les camions relais. Tu te rends compte, Alexandre, pour que tu sois dans le canapé, tranquille, de ton camping, car le long de la route du tour, pour regarder
non,
le tour
de... Non, refais la phrase. Attends, j'ai écrit vraiment pas bien.
Oui.
Alors... Alexandre, tu ne couperas pas ça en montage. C'est très important qu'on le refasse proprement.
D'accord. Tu te rends compte, Alexandre, pour que tu sois dans le canapé tranquille de ton camping-car le long de la route du Tour de... pour regarder le Tour de France qui passe derrière toi, il faut pas moins de 500 personnes, 150 camions, des dizaines de kilomètres de câbles, 7 motos, 5 hélicos, 3 avions, des satellites et bien sûr, la caravane publicitaire.
J'ai toujours pas compris à quoi servent les avions, moi.
Bah, c'est pourtant simple, Alexandre. Sur le Tour, tu peux avoir soit le peloton... tous ensemble, soit des échappées simples ou des échappées avec des groupes de poursuivants. Toi, tu es tranquille dans ton canapé ou au bureau en train de regarder le tour sur ton téléphone. Comment tu crois que ça marche tout ça ?
Bah, la moto, elle filme, l'hélico, il filme, et moi, je reçois les images.
Alexandre, on forme des ingénieurs. Tu dois bien te douter que c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas de la magie.
Comme le cloud.
Exactement, Alexandre. C'est comme le cloud. La data, elle n'est pas dans les régions ou les pays où il fait pas beau. Donc dans les nuages, mais dans des serveurs. Et là, pour le tour, c'est pareil. C'est un peu plus compliqué.
Oh, c'est beau l'île vue d'en haut, mais ça marche comment tout ça?
Hé hey Alexandre, je te vois depuis mon avion. Je fais des tours au-dessus de toi depuis le début, ça tourne.
Exactement. Arnaud est en train de faire des tours au-dessus de toi. Tu peux regarder sur Flight Radar pendant les épreuves et voir les trois avions qui font des tours.
Donc je récapitule, il y a cinq motos et les deux hélicos qui filment le peloton, les échappés ou le groupe de suiveurs. Le signal est envoyé à un avion ou un hélicoptère intermédiaire qui renvoie à son tour à d'autres avions qui tournent plus haut.
Puis ce dernier a une station relais intermédiaire ou directement à l'arrivée où les images sont traitées, puis renvoyées à des camions relais pour l'envoi par satellite dans le monde.
C'est facile.
Mais pourquoi trois avions?
Je suis pas sûr de la réponse, mais je pense que c'est pour suivre les différents groupes et puis en fonction du relief, ils ont besoin d'avoir d'être sûr de pouvoir récupérer les images des différentes motos. Donc pour cet après-midi, parce que nous sommes le 16 juillet au moment où l'émission passe, si vous regardez l'étape Toulouse-Toulouse, ayez une pensée pour les trois pilotes des trois avions qui vont faire des ronds pendant 4 heures pour que vous puissiez tranquillement regarder le tour depuis votre camping-car, votre bureau ou votre canapé. Alors moi, je vais sûrement pas aller y jeter un œil parce que je suis en train de travailler, mais bon, je vais être en train de travailler, mais bon, peut-être que je vais regarder quand même. On a tous nos incohérences dans la vie. On critique, mais on aime quand même bien regarder le tour, non?
Ouais,
Oh, vous n'êtes pas drôle.
Aïe, 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 aïe. Les trois avions, c'est vrai. Il y a les avions relais au-dessus.
Ben oui, il faut bien.
Ouais. Et je me demande en fait si c'est pas trois qui se relayent parce que
Non,
quatre
non,
heures.
il tourne. Hein, bah, tu regardes, bah, là, c'est là au moment où on enregistre, tu ne verras pas. Au moment où les gens vont écouter l'émission, ils ne le verront pas, mais en plein après-midi, le jour d'une étape, vous pouvez regarder sur Flyradar 24 et vous verrez qu'il y a trois avions qui tournent en permanence au-dessus du peloton.
Ouais,
Ouais.
mais à un moment, ça
Ouais.
frise de ridicule quand même. Ouais.
Ah, il faut bien que les images soient claires, sinon tu vois le coureur qui passe, d'un seul coup, tu sais, l'image, elle marche plus. Et là, t'es là, zut! Alors que s'il y a trois avions, ils peuvent récupérer les images et faire en sorte que ça marche. Quand tu aimes bien le Tour de France, c'est important. Imagine, Alexandre, tu es assis dans ton canapé, dans ton camping-car au bord de la route. Tu regardes la télé. Et si jamais l'image, elle coupe au moment où ils sont presque en train d'arriver, tu peux rater le moment où tu dois te retourner pour voir la route.
Eh oui.
Et t'as raté le passage des coureurs, c'est dommage.
Oui, je comprends. Ouais.
Tu vois? Donc c'est important qu'il y ait tout ce dispositif qui tourne au-dessus.
J'ai vu l'autre jour, ils avaient garé des voitures de la caravane publicitaire au grand stade à côté du campus. Donc je les ai vues de près, mais à l'arrêt. Parce que quand elles passent, c'est rigolo de voir les bagnoles passer. Elles sont décorées, etc. Mais alors à l'arrêt, tu vois à quel point c'est du toc. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Je sais pas ce que t'en
Alexandre,
penses.
je te propose une chose exceptionnellement, comme on est au mois de juillet, si on va passer une musique après ma chronique.
Allons-y. Qu'est-ce que tu
Elle
proposes?
s'appelle Énergie de Groundation. Ça va mettre de l'énergie à tout le monde.
Et c'est donc la fin des minutes de la fin du monde du mois de juillet. On se retrouve en août, parce que nous, on ne fait pas de pause. Donc on se retrouve en août pour le nouvel épisode des minutes de la fin du monde. Et d'ici là, on cède la parole à rien du tout, parce qu'a priori, c'est la grille musicale de Radio Campus juste après nous. Et puis écoutez Radio Campus, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a pendant l'été parce que ça change dans la grille, donc je ne vais pas vous faire des annonces. Mais en tout cas, on vous souhaite un bon mois de juillet, un bon mois d'août pour le début, et à bientôt à tous les auditeurs et auditrices de Radio Campus.
Et puisqu'il reste 3 minutes, je vous mets un deuxième headstick du nouvel album The Best Thing on TV qui s'appelle Each and Every Day.
Radio Campus, 106.6 FM.